est-elle toujours au rendez-vous avec la multiplication justement de ses supports aujourd'hui? La publicité, elle vous agace, parfois elle vous met en joie aussi, elle vous fait rire de temps en temps. Vous l'appréciez aussi, en tout cas, nous faisons partie souvent d'une génération qui avons vécu les nuits des publivores, des nuits où l'on pouvait découvrir ces publicités du monde entier avec une soirée très festive et où l'on découvrait aussi parfois toute la créativité et l'artistique aussi derrière la création publicitaire. Mais
avant, quand on nous présentait un produit, on nous présentait juste un produit, super, mais je m'identifie pas à ce produit. Aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux, c'est plus une vidéo qui va montrer comment il fonctionne, quelle utilité exactement il a et dans quelle situation. Des situations réelles du quotidien qui pourraient m'arriver tous les jours. Et donc le côté humain est plus agréable et me fera plus acheter, ça c'est sûr.
Est-ce que le monde de la publicité n'attire plus du tout les jeunes d'un point de vue de carrière professionnelle?
Tout à fait. C'est vraiment une question existentielle. Bah, je pense qu'en étant chroniqueuse pendant 7 ans dans cette émission, ça m'a souvent traversé l'esprit aussi de me dire qu'est-ce que je fais dans ce métier, pourquoi je suis là, à quoi ça sert. C'est des questions que les jeunes se posent encore même plus que moi. Et donc, ça partait un peu de ce constat-là que c'était plus tellement un métier qui faisait rêver. Lorsqu'on a des dîners aussi, on dit plus vraiment... je travaille dans la pub, on dit je travaille dans la communication, ça fait un peu moins là parce que la pub c'est un peu le truc pas bien, donc il y avait un peu pourquoi est-ce que la pub est tellement diabolisée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, alors que moi j'adore ce métier en fait et que je pense pas que je sois une mauvaise personne, donc
je peux confirmer.
Comment expliquer un petit peu tout ça et donc aller chercher dans le passé pour voir ce qui s'était qu'est-ce qu'on a pu perdre, qu'est-ce qu'on a toujours et qui explique peut-être comment est-ce que les jeunes pourraient avoir envie en fait de rejoindre ce métier, mais
où la publicité a émergé dans la société comme phénomène à part entière. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de publicité, ni télévision, ni radio dans ce pays. Donc tout était imprimé, c'était les affiches, essentiellement les affiches. Dans la rue, il y en avait beaucoup, des grandes affiches de grand format à l'époque. Et faire une affiche, créer une affiche et qu'on retrouvait sur les murs de la ville, des villes, c'était un moment très exaltant, évidemment. On pouvait dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'était un grand moment. Après, évidemment, les médias se sont démultipliés, les technologies sont apparues et les organisations se sont complexifiées.
Ouais.
Mais au départ, la publicité était un peu un métier d'artisanat artistique, on va dire, essentiellement. Donc le miroir, on ne savait même pas que ça existait.
Ouais, c'est ça.
Avoir une idée. Alors une idée, ou bien ça vient vite, ou bien ça vient pas vite. Ça peut... Selon les sujets, selon des sujets qui nous sont proches personnellement ou pas, je dis, quand moi je devais créer des campagnes pour des déodorants féminins, par exemple,
oui,
ça ne me concernait pas directement, personnellement, donc j'avais besoin d'un peu d'apprentissage du sujet, ou de me renseigner après auprès des personnes qui en avaient besoin et qui l'utilisaient, et quel était le programme présenté aux utilisateurs, le choix entre les marques, etc. Donc par contre, de temps en temps, il y a des choses qui me touchaient beaucoup plus de plus près moi-même. Et à ce moment-là, c'était plus facile.
Mais à l'époque, justement, reprenons l'exemple du déodorant féminin.
Les émissions spécialisées sont apparues que plus tard.
Oui.
Dans les années 60 ou même 70, tout ça a été instinctif. Tout ça a été de bouche à oreille. On se renseignait comme on pouvait. Et puis on se disait inspiré. Et puis le client trouvait ça chouette, ce qu'on présentait, et vogue la galère. Je veux dire, il n'y avait pas du tout la normatisation qui a suivi depuis. Union sur rue.
Oui.
Et les agences de publicité, d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde dans les agences de publicité, puisque les machines ne faisaient encore rien à l'époque. Il fallait du monde pour tout faire. Donc les agences où il y avait 100, 200 personnes employées, c'était fréquent. Il y en avait plusieurs. Et comme c'était tout en Belgique des filiales, ou pour la plupart en tout cas des filiales de sociétés américaines,
oui,
donc des filiales belges, et comme il y avait des filiales françaises, allemandes, hollandaises, britanniques, etc. Et donc c'était des sociétés, c'était un métier structuré avec du big business derrière, quoi.
Oui.
En pub comme partout, il faut les gagner.
Oui.
Il faut les gagner, il faut y aller au mérite. Et donc si on vous fait confiance, vous avez les coudées franches. Si on se méfie de vous, vous n'avez pas les coudées franches. C'est aussi simple que ça. Et souvent dans les sociétés américaines, le côté organisation, direction à suivre, processus établi à l'avance, est très pesant. Mm. Puisque dans le business en Amérique, qui que vous soyez, vous devez faire la même chose. Alors que nous, Européens, on avait plutôt tendance, du moins à l'époque, à dire, moi je fais les choses comme ça, et toi tu fais les choses comme ça. Mais dans les sociétés américaines, il y avait une espèce de normalisation imposée par les clients. Les grandes sociétés, comme, bon, je ne sais pas si on peut en citer, comme P&G ou Procter & Gamble ou Shell, des boîtes comme ça, c'était des gens, c'était des sociétés qui ont des politiques transnationales, internationales, et on ne peut pas faire la petite musique particulière d'un marché à l'autre. Tandis qu'un annonceur belge qui travaille en Belgique pour la Belgique, forcément, on a plus les coudées franches.
Et en fait, on gâte la liberté parce que l'international a moins de choses à dire, mais aussi parce qu'on a moins besoin d'eux financièrement.
Mm-hmm. C'est artisanal, oui. En quelque sorte. Et donc c'était des techniques artisanales, artistiques artisanales, et puis les médias étaient encore plus artisanaux aussi dans leur manière d'aborder les choses. La presse ou l'affichage, c'était un peu du business au jour le jour. C'était pas des grands procédés normalisés comme on voit maintenant.
Encore, c'est évidemment quand on a des briefings de clients, on a des reviews, des choses comme ça, et il y a des idées qui sont sur la table. Après, je crois qu'on doit, comme dit André, il y a beaucoup plus de process, de normalisation, etc. Donc, pour amener cette idée vers le client, c'est parfois plus compliqué. Ouais. Il y a plus d'étages, plus de... on doit faire des présentations qui vont être présentées elles-mêmes en interne. On n'a pas, nous, accès à telle ou telle personne parce qu'il y a trop de monde. Les gens n'ont plus le temps. La création, la campagne se valide en un quart d'heure, des choses comme ça. Donc, voilà, ça paraissait... Moi, ce que j'en vis un peu avant, c'est cette non-formalité, en fait. Oui. Ce côté informel, en fait. Voilà. Ce côté informel, je l'envie un peu parce que ça rend le métier, je trouve, un peu plus humain, un peu plus libre.
Un instant, et reprendre vos messages, et notamment celui de Claire, sur lequel vous pourrez réagir, et je vous laisserai un petit peu de temps pour y réfléchir. Elle nous dit dans son message qu'elle est partie ce matin même une annonce pour Récupel, et peu de temps plus tard, une pub qui vous dit que si vous perdez votre téléphone, ce n'est pas grave, et donne une réduction de 30€ pour l'achat d'un nouveau. Toutes ces pubs poussent à consommer alors qu'on doit rentrer dans une période de privatisation et arrêter d'acheter de neuf et de gaspiller les matières premières. On va en reparler, des choses très contradictoires qui arrivent dans la foulée d'une publicité.
Cette contradiction, ça c'est un peu c'est tout le temps comme ça, en fait. Je veux dire, pour moi c'est pas nouveau qu'on arrive avec ce genre de messages contradictoires et l'enchaînement des pubs. Ouais. Alors il y a des activités sectorielles qui sont faites par les régies pour être sûr qu'on parle pas des mêmes sujets, mais pour éviter justement d'enchaîner sur ça puis sur autre chose. Mais par rapport plutôt là à l'écologie même, où on a besoin d'entendre des messages, où on va vers une économie circulaire, et on a à côté de ça une marque qui décide de dire « mais non, overconsommer », ça va pas. Mmh. Et de plus en plus, et c'est vrai que l'écologie était un peu abandonnée, parce que y a une croyance de la part des marques que les gens s'en foutent. Parce que la vie est dure, parce que c'est d'abord le prix, mais c'est faux. Des études prouvent que les gens ne s'en foutent pas. 89% des gens ne s'en foutent pas, mais pensent que les autres s'en foutent. Et donc, de plus en plus, de nouveau, là où il y a un an, il n'y avait plus de briefing sur la durabilité, là, toutes les marques sur lesquelles je travaille m'en donnent un. Donc, ça revient, parce qu'on se rend compte que c'est une responsabilité qu'on doit avoir, que c'est meilleur pour l'économie, et que, en fait, les gens le demandent. Donc, voilà, cette deuxième pub, cette pub, ils disent, c'est pas grave, ça pousse à la surconsommation, ça fait un peu AliExpress, c'est ému, c'est pas OK. Klarna, des choses comme ça, ce genre de marque profite de l'effet consumérisme que les gens, en fait, ont tendance à avoir quand ils sont malheureux. Et les gens sont un peu tristes en cette période, donc on a tendance à consommer. Et ça, c'est un peu profiter de la dépression des gens.
Consommer, c'est pas le Moyen-Âge, hein, pourtant. Ouais.
Non.
Et donc à l'époque, en fait, et aujourd'hui c'est la même chose, la preuve, la réaction de cet auditeur ou cette auditrice, c'est que la pub s'impose aux gens.
Oui.
La pub s'impose aux gens. La pub, c'est comme quelqu'un qui rentre chez vous dans votre salon avec des pieds pleins de boue. et qui fait des taches sur votre moquette que vous avez fait nettoyer le jour avant. Oui. Donc, la pub, c'est comme ça, c'est une intruse. C'est une intruse. Les gens ne cherchent pas à voir la publicité, sauf cas d'exception, quand la publicité est entertaining, quand elle est comique, quand elle est belle, quand elle est inspirante, etc. Ce qui devient effectivement rare. Mais en fonction de ça, je pensais toujours, en tant que directeur de création publicitaire, c'est que comme on était des intrus, il fallait quand même rester poli. Il fallait rester propre sur soi. Ça veut dire être beau à regarder ou belle à regarder. Ça veut dire être digne, ça veut dire être cohérent avec une certaine éthique et ne jamais pratiquer ni la vulgarité, ni la lourdeur, ni des choses comme ça. Et je pense que la création publicitaire de valeur, avec une pointe d'humour, pas la franche rigolade où on se tape sur les cuisses, mais la pointe d'humour, était toujours plus apte à faire accepter la publicité dans la vie des gens. D'ailleurs, la publicité était mieux vue d'ailleurs à ce moment-là, mais il y avait quand même toujours aussi des critiques. La publicité pour certains produits, comme le tabac par exemple, était déjà très fort mise en cause à l'époque, voilà.
Ou l'alcool. La publicité pendant plusieurs années, je peux vous dire que celle-ci a bien changé. Elle n'est pas du tout créative. Pour preuve, la nuit des publivores n'existe plus. Vu que la pub est devenue pauvre, juste bonne à vendre un produit et de crever des annonces bon marché, et c'est bien dommage, de créer des annonces bon marché. Je pense que la seule qui a été vraiment créative cette année, c'est la pub pour Intermarché parue pendant les fêtes de Noël. Alors, c'est très... L'impact que cette publicité a eu est quand même assez phénoménal. Ça veut dire quoi? Alors là,
j'en parle
là,
dans le livre aussi.
J'ai regretté que vous ne soyez plus chroniqueuse dans l'émission.
Moi aussi. D'ailleurs, je vous ai envoyé un message. Je me dis, parce que chaque année, André, je faisais
les
pubs de Noël. C'était ma séquence préférée parce que j'adore Noël. Véronique aussi. Et donc là, je n'étais pas là pour en parler de cette pub parce que j'ai arrêté en octobre de faire les chroniques. Mais en effet, elle a été décodée. Alors plein d'analyses publicitaires ont essayé de décoder pourquoi ce succès. Et moi je pense que déjà Intermarché, ils sont hyper cohérents depuis des années. Ils font des spots de Noël. Il y a quelques années, moi il y avait une pub que j'avais adorée aussi. C'était un petit garçon qui était stressé de voir à quel point le Père Noël était gros et se demandait comment il allait passer par la cheminée. Et donc à chaque fois qu'il allait voir le Père Noël du supermarché Intermarché, il lui apportait des légumes et des soupes. Mange ça. Et le jour de Noël, il voit que les cadeaux sont là, il fait ouais, j'ai gagné. Donc en fait, il y a cette cohérence. Intermarché depuis des années est sur le bien manger fruits et légumes à Noël aussi. Oui. Il y a ça. Il y a la musique chaque année. Et donc je pense que c'était il y a quelques années, c'était Aznavour, la chanson. Donc ils mettent la musique. Donc ils sont aussi très cohérents là-dedans. Et là, ce qui a fonctionné, ça, c'est un long métrage. Enfin, un court métrage, pardon, mais pour la pub, c'est très long, 2 minutes et des. Et il y a ce contexte de l'IA où tout le monde a peur que l'IA nous prenne notre job, et moi je le vois aussi. Ça prend peut-être même plus le job d'autres personnes que dans la pub, en fait, parce que ça remplace des gens dans l'administration. Ça touche en fait même plus mes clients que nous pour l'instant, où on travaille avec l'IA, mais ça ne nous remplace pas encore. Et là, ce spot était fait sans IA. Et je pense que ça, c'était majorité. Enfin, ça a fait. Il y a encore moyen que l'humain puisse s'en passer et faire quelque chose qui soit hyper émotionnel.
Donc, je dis que cette publicité Intermarché tranche par rapport au contexte ambiant, d'abord par sa longueur. Oui. C'est un peu plus long que les spots publicitaires classiques. Le format est plus confortable pour l'écoute et pour le spectacle. Et deuxième chose, c'est une publicité qui ne vend rien, qui ne vend pas de produit. C'est une publicité qui propose un lien avec une marque. C'est pas du tout la même chose que ce que l'habitude, les marques de distribution sont habituées à faire, où on nous dit, faut acheter ceci aujourd'hui parce que demain sera plus cher, et si on achetait 3, on aurait encore un gratuit, etc. Donc je pense que le côté hard selling, comme on dit dans le métier, n'est pas présent du tout dans cette marque. C'est juste une marque qui a envie d'être gentille avec les gens. Et ça, c'est quand même un boom sur les blessures qu'on a tous d'aujourd'hui.
Et c'est innovation, inventivité. Et c'est vrai qu'à l'époque d'André, même si c'était pas le Moyen Âge, mais André, vous avez connu quand même les innovations produits, machines à laver qui n'existaient pas avant. Des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est en panique un petit peu. On n'a pas beaucoup d'innovations produits. Et donc, soit on peut raconter des belles histoires en lien avec la marque, mais souvent, les annonceurs nous poussent à trouver un entre-deux. J'ai pas d'innovation produit, mais je veux pas aller vers un truc trop émotionnel. Je veux quand même qu'on vende mon produit. Mais du coup, on vend un produit qui existe déjà. Et enfin, que dire en fait ? Que dire ? Et donc c'est cette communication qui est intrusive parce qu'elle ne vend pas quelque chose de nouveau, que la personne se dit « Ah, ça vaut la peine d'avoir une communication, c'est un nouveau produit, un nouveau service. » Et elle n'est pas tout à fait émotionnelle, et c'est pas tout à fait une histoire, c'est un entre-deux, c'est un compromis.
Contenu publicitaire à destination des réseaux sociaux. Pour moi, une bonne pub, c'est une pub avec une belle image, parle aux gens, dans laquelle on peut se reconnaître. C'est vraiment la chose primordiale et c'est ce qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Je pense que la pub n'est pas morte, c'est vraiment un autre format. La rupture entre les deux formats vient plutôt du ton, l'idée de créer quelque chose qui parle aux personnes qui regardent le contenu, et moins juste présenter un produit. Le produit est plus dissimulé. Mais par contre, je pense pas que le format soit vraiment une contrainte. Je pense que voilà, ça part vraiment dans tous les sens. C'est aussi ça la richesse des réseaux sociaux. Là où à l'inverse, à la télé, il y a quand même énormément de codes à respecter qui sont de l'ordre encore de l'analogique.
Ah non, c'est pour ça que des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses.
Qui fonctionne le mieux aujourd'hui, le face caméra fonctionne encore très bien. Les témoignages, toujours dans l'idée de s'identifier à la personne. L'humain a un esprit un peu curieux. Est-ce qu'il faut faire moins pub pour être vu ? Je pense que oui, tout le temps filmer à la caméra n'est pas la meilleure des choses. Parfois, juste filmer un contenu à l'iPhone, cette texture d'image, je crois qu'il parle plus. Si ça fait trop pub, les gens swipe.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Le plus important pour attirer la personne, ça se joue vraiment dans les 3 premières secondes, même à la première frame. Aujourd'hui, la frontière entre l'influence, la pub et le divertissement, elle est très maigre. Que spectateur, maintenant, n'arrive même plus à voir parfois ce qui est une pub ou pas. Alors c'est étonnant parce que dans les pubs il y a 20-30 ans, j'ai l'impression qu'on osait plus en termes d'histoire et de narration. Là où aujourd'hui on est très contraint. C'est un peu tout le temps les mêmes histoires, tout le temps les mêmes choses. Il faut surtout pas dévier. La pub d'il y a 20-30 ans était très originale. C'est des pubs magnifiquement réalisées, c'était un peu des mini-fictions. Puis ensuite, on a une ère de pub très focus produit. Et aujourd'hui, maintenant, on a le mélange de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, la créativité, elle est plus libre en termes d'image et de technique. Par contre, je pense qu'en termes de narration, elle est plus contrainte.
Pour l'homme.
Aurélie, mais c'est d'autres manières, comme des influenceurs qui disent « Ah non, moi je suis pas influenceur, je suis créateur de contenu. » Mais en fait, c'est un joli nom pour dire « je suis influenceur ». Et voilà, comme j'ai écrit dans le bouquin, moi j'ai toujours un peu du mal avec ça, parce que effectivement, l'homme est curieux, a tendance plus à croire ses pairs qu'à croire une marque, et les influenceurs en profitent pleinement, et l'influence, ça marche à mort. On vend plus de produits, c'est 60%, je pense. 60% des gens, des influenceurs qui communiquent une marque arrivent à le vendre. C'est énorme. C'est le taux de conversion, en fait. Ça devient nos dealers, des concessionnaires, quoi. Désolée pour les influenceurs, mais c'est à ça qu'ils servent.
Un sandwich, à l'époque.
Mais en fait, ça marche. Ouais. Ça marche. Quand un influenceur dit acheter ce produit, les gens vont le faire. Mm. Quand une marque le dit, ils vont pas le faire. Mais pourtant, cet influenceur est payé par la marque pour le dire.
C'est ce que voilà. Finalement, c'est ce qu'on disait. Un incarnant qui vous explique pourquoi ce produit, comment ça marche, comment il fonctionne, ça marche mieux que
ça
finalement autre chose. C'est hermétique à la publicité. Je constate néanmoins que j'apprécie les pubs drôles et intelligentes. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis que vous l'avez dit. La petite pointe d'humour dans les publicités, c'est quelque chose qui marche très très fort. Et donc, j'apprécie les pubs drôles et intelligentes en ce sens qu'elles ne me prennent pas pour un con, et j'ai horreur d'être pris pour un con. Concrètement, les pubs pour les voitures et les savons sont, sauf très rares exceptions, le sommet de la bêtise agaçante. Quand le greenwashing pointe son nez, j'ai envie de sortir le bazooka. Même quand je me marre, je dis bravo, bien fichu. Ça ne me fait pas acheter forcément le produit pour autant, mais ça me laisse une bonne impression de la société promue. Question donc à vos invités. Je suis aujourd'hui hyper critique sur la pub qu'on décortique même. Vous l'aviez déjà ressenti ? Vous l'avez ressenti ? Vous l'avez vu venir ?
Je pense que la publicité, dès ses débuts, a engendré ça.
Ouais.
Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la pub est un intrus dans votre vie. Vous n'avez pas envie, vous ne demandez pas ça. Tout à coup, ça vient dans votre lecture ou dans votre canapé quand vous regardez un programme. Donc je pense que ce côté intrus est effectivement pardonné facilement par le consommateur, le spectateur, quand il y a de l'intelligence, un peu de beauté, un peu d'esthétique. Ouais. On parlait de la pub Intermarché, qui est vraiment un très joli film. Et surtout, un peu d'humour, un peu de sourire, un peu de positivisme. Voilà, cette tendance anti-pub existe depuis toujours.